C'est le tout nouveau podcast sur les
Cardass.
C'est le tout nouveau podcast sur les Cardass.
Cardass.
Ils sont deux connards à troller aujourd'hui. Cardass. Ouh. Bienvenue dans le mini cast du Cardass Social Cast. Ouh. Salut tout le monde. Donc combienième mini cast? C'est le 5e mini cast. Ou le sixième, parce que je sais que Ali on enregistre un plus ou moins même moment, peut-être ce soir, je sais pas, mais voilà, donc on est de retour au petit restaurant asiatique du Minicast numéro 4. Et donc du coup ce soir je suis aujourd'hui, pardon, j'ai toujours l'habitude que ce soit le soir, aujourd'hui je suis avec un invité, c'est sa première apparition au podcast, pourtant il a écouté tous nos épisodes. Donc du coup c'est Max, même si je sais jamais sous quel pseudo t'as...
Max, ça c'est
Max, parce qu'à un moment c'était on connaissait sur Twitter sous le nom de Robot M. Aujourd'hui Instagram sur le Biblio Gamer, Maxumoto, salade de points, enfin bref, voilà quoi. Donc salut Max, comment vas-tu?
Salut, ça va, et toi?
Bah ça va, nickel. Donc du coup pourquoi un petit mini cast avec Max? Bah déjà on se voit, donc je pense que c'est l'occasion. Et puis en fait Max, ça fait quand même 12 ans qu'on se connaît.
12 seulement
ans, ouais 12 ans, je pense.
Okay,
12 ans, ouais. Ça fait 12 ans qu'on se connaît. Et puis comme je sais que il est passionné de podcast, et puis qu'il a écouté, je sais pas, tous les épisodes de Cardass Social Cast, je sais pas.
Je pense que je suis l'auditeur le plus fidèle de votre podcast, même si je n'y connais absolument rien du tout.
Voilà, donc du coup c'est l'un de nos deux éditeurs, voilà. Merci Max. Voilà, et surtout en fait on a certains entre nous avons déjà enregistré avec Max, parce que à l'époque il avait Radio Robot, son magnifique podcast, et donc du coup avec Gokan nous avons participé à au moins trois épisodes, je sais qu'il y avait l'épisode du coup sur l'adaptation Netflix
de Death Note.
Alors je sais pas si Gokan était là, peut-être que j'étais tout seul.
C'est possible que tu sois tout seul, mais j'en ai fait un, je crois, tout seul avec lui aussi.
Ah ok, d'accord, parce qu'ensuite je sais qu'on a fait sur le film philippin ou taïwanais Dragon Ball.
Oui.
Il était épique celui-là.
Ouais.
Ensuite on a fait un sur Picsou.
Ouais, c'est ça, globalement sur les canards de l'univers de Disney, Picsou, Donald et tout ça, mais surtout Picsou. Ouais.
Voilà, et puis, du coup avec Mike, tu te souviens de ce que tu avais fait, si tu avais fait un podcast avec lui?
Je crois qu'on parlait de Ranma 1/2, si je me rappelle bien, parce que ça correspondait à la sortie, à la réédition du manga chez Glénat.
Voilà, c'est très possible, ça me dit quelque chose, et puis je pense être le seul aujourd'hui à voir encore les épisodes quelque part. Je sais pas si, même pas si toi tu les as encore.
Alors hier j'en discutais avec un collègue de travail, et je les ai retrouvés tous sauf l'épisode épique avec les canards justement.
Ok, bah moi j'ai tout, donc je peux te filer ça. Et du coup...
On va parler de quoi alors?
Bah juste un peu qui tu es, d'où tu viens, où tu vas. Donc
okay.
Donc déjà ouais, donc avec Max on se connaît depuis 2014, peut-être 2013, mais je sais 2014 au moins, sur Twitter. Donc à l'époque tu étais Robot M, et puis en fait on était une petite communauté de Français qui discutait manga. Alors l'autre jour tu m'as dit que tu faisais pas partie de la team Jojo.
Ben qu'est-ce qu'il faut pour faire partie de la team?
Bah je sais pas, moi j'avais mis tous les gens qui avaient posté au moins un truc sur Jojo Visa Aventure.
C'est possible qu'à l'époque j'ai parlé du fait que j'avais commencé la série, ouais, mais j'ai pas poussé outre mesure, j'étais un lecteur curieux on va dire.
Voilà, parce que du coup j'avais une petite liste Twitter dans laquelle j'avais Team Jojo, dedans t'avais qui? T'avais Dende Snail,
ouais.
T'avais Ours 256 ou plus quoi.
Ouais.
T'avais... Je sais plus.
Mais ouais, mais justement, Dende et Ours, c'est deux personnes que j'ai revues par la suite, notamment au Japan Expo, qui a lieu en ce moment, au moment où on parle. Par contre, ouais, je sais pas, mais je savais même pas que je faisais partie de cette team, pour te dire.
Ou peut-être pas, enfin, après la liste n'existe plus.
Que donc... tu m'avais classifié là-dedans, en tout cas.
Bah, je sais plus, mais bon. voilà, et puis, donc, du coup, on s'est rencontrés. Alors, à l'époque, c'était vraiment, je pense, l'âge d'or du Twitter manga. C'était vraiment cool. Oui. Tous les jours, moi, je me faisais un plaisir d'aller tweeter sur des trucs, discuter avec les gens et tout, avant que Twitter devienne un peu compliqué.
Oui.
Voilà. Ensuite,
je pense que le ce qu'on appelle le Twitter manga. Maintenant, ça a évolué, c'est devenu un peu le TikTok, le... comment on appelle ça ? Je sais pas s'il y a un nom pour ça. Tu sais, pour les lecteurs qui partagent leur coup de cœur lecture sur TikTok.
BookTok,
voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a un équivalent pour les mangas ? Je sais pas trop.
Bah, je sais pas, même si TikTok, ça a quand même cette image un peu sale, quoi.
Je te le fais pas dire. Enfin, voilà. Oui, moi, c'est pas mon truc en tout cas, ouais, c'est sûr.
Voilà, mais peut-être Instagram, mais bon, je suis personne de manga sur Instagram,
ouais,
je sais
ouais.
pas. Mais...
J'en suis très peu, mais moi, Instagram, je trouve que c'est un réseau qui n'est pas forcément fait pour partager des reviews, enfin, ou alors plus dans un format vidéo proche de TikTok, du coup, mais à l'écrit, moi, si je vois sous ma photo une légende de 20 lignes, j'ai pas du tout envie de la lire, en tout cas.
Bah, je sais pas si tu te souviens, il y a quoi, il y a 7-8 ans, j'avais créé un compte Instagram qui s'appelait JujuMDTrucs, et j'avais commencé à poster des trucs comme ça, mais bon, en fait, c'était vraiment pas faisable... sous ce format-là, parce que tu mets une image et puis ensuite tu mets du texte, mais personne lit le texte, enfin bref. Voilà, ensuite je sais que la première fois qu'on s'est rencontrés en vrai, c'était en 2016, juste après une Japan Expo, avec Bob.
C'était la première fois ? Oui, d'accord.
Okay. Avec Bob, on s'était rencontrés genre au Café Lola dans le 15e, et ensuite on était allés jusqu'à Eastside Burger, on avait mangé...
T'as une trop bonne mémoire.
On avait mangé là et ensuite on avait passé la soirée à la tête dans les nuages.
C'est ça, c'est ça. Ça me fait plaisir que tu te rappelles de tout ça.
Voilà.
Genre on avait fait, on s'était pris en photo, j'avais un Polaroid à l'époque. Ouais. Et je suis retombé dessus là récemment parce qu'il y a plein de trucs que je redécouvre parce que j'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Et ça me fait plaisir d'avoir conservé cette photo de cette soirée là.
Voilà, donc c'était vachement cool. Et puis ensuite, je m'en rappelle, alors peut-être qu'on s'est revu si, il y a peut-être un moment où t'as dormi à la maison, mais je sais plus quel moment.
Est-ce que j'étais pas allé à Japan Expo justement une fois ?
Je sais pas, parce que je sais que le matin t'étais parti hyper tôt pour aller à l'opéra, mais...
Oui.
Et que t'avais dormi du coup sur le canapé de la chambre 2 sans drap, parce que tu dors sans drap. Voilà. Et ensuite...
Le cuir.
Même le cuir, même, parce que du coup j'ai un vieux canapé récupéré des parents de ma copine qui ont cuir.
J'avais passé la nuit du coup, enfin plusieurs nuits dans ton... Est-ce que c'est ta cave, comment dire ? Comment on appelle ça ? Ta man cave ou ta...
Alors, je déteste cette expression.
Je déteste aussi, mais
je ne l'appelle pas comme ça. Mais oui, c'est en fait, quand on a emménagé, ça devait être la salle audiovisuelle. En fait, ça a vite été l'endroit où je stocke tous mes trucs de collection. Puis aujourd'hui,
la force des choses.
Aujourd'hui, comme à la base, c'est une pièce qui est censée être une chambre, je l'appelle la chambre 2, histoire de ne pas dire que c'est ma pièce à moi, tu vois. Parce que bon,
tu te mens à toi-même.
Non, mais parce que c'est notre appart à nous, tu vois. Et en plus, en ce moment, comme il fait canicule et que la chambre, cette chambre-là donne sur derrière et donc du coup ça tape moins, bah du coup ma copine passe ces journées-là, donc du coup c'est pas que ma pièce à moi, tu vois, mais voilà. Et donc ensuite je sais qu'on s'est revus en début août 2018, donc du coup il y avait Gokhan et Malik. On avait, je sais qu'on avait bu un verre à République.
T'as la mémoire des dates.
Je me demande si on n'avait pas mangé aussi à l'époque où Hank Pizza. Hank Pizza existait encore.
Oui.
Le soir, on a mangé japonais chez Ikudo.
Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, effectivement.
Voilà, donc du coup, Gokhan, membre du podcast, et puis Malik, tous ceux qui lisent le magazine Otomo doivent le connaître parce que c'est le pilier du magazine. voilà, et puis ensuite, bon, on s'est revu plein de fois. C'était, je crois, l'été 2022 que j'ai passé quelques jours chez toi.
Je pense que c'était là.
Quand tu vivais en.
Bastia.
En Corse, à Bastia. Ouais. Et puis là, du coup, t'es retourné dans ta Sarreguemines natale. Et puis on se dit que peut-être ce serait bien de passer un. Vous avez un endroit pour nous héberger si on veut passer.
Aucun problème.
Ouais, bah voilà,
aucun problème.
Pourquoi pas passer un week-end. Après, je sais pas trop ce qu'il y a à faire sur le coin, mais au moins vous voir, tu vois.
On trouvera.
Voir le petit Orsou, parce que le petit Orsou est très sympa. Ouais, rencontrer la petite aussi. Voilà pour le background, et donc du coup, Max, présente-toi un peu. Qui es-tu en tant que. En fait, je pense que t'as des passions qui sont très proches un peu des nôtres, donc
ouais c'est sûr. Moi je ouais, c'est ça, j'ai des passions très variées et qui je passe de l'une à l'autre régulièrement, donc je suis peut-être pas aussi poussé dans une de mes passions que toi par exemple pour les cardasses, mais moi en fait mon métier, je suis bibliothécaire, je travaille en médiathèque depuis 19 ans dans quelques semaines. Et là, dans la médiathèque, je suis responsable du secteur jeux de société et jeux vidéo.
Que tu as monté ?
Oui, c'est ça, ouais. Il y a une quinzaine d'années. Donc voilà, parmi mes passions, il y a les jeux vidéo, enfin, beaucoup moins depuis quelques années. Les jeux de société, ça c'est toujours très présent. Les jeux de cartes, notamment aussi, parce que moi j'y joue plus que je les collectionne. Après les mangas, bien sûr, depuis tout petit. Hein, moi j'ai grandi aussi avec Dragon Ball, etc. Je sais pas quel âge ont les autres du podcast, mais on a plus ou moins le même âge, milieu fin des années 80, on va dire. C'est ça, essentiellement. Le cinéma aussi, bien sûr. Et là, depuis quelques semaines, je m'intéresse un tout petit peu aux cartes Pokémon, mais plus... En fait, je fais l'acquisition de quelques cartes, mais juste parce que j'aime l'illustration, j'aime l'ambiance de la carte, le dessin, s'il est beau, s'il m'inspire ou quoi. Mais je ne suis pas fan du côté mercantile, de tout ce qui est... ouverture de booster devant les caméras, tout ça. Enfin, vous, je vous regarde, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que c'est devenu un peu un show et... Enfin voilà, je ne vais pas non plus me mettre des gens à dos, mais voilà, disons que c'est comme ça que j'aborde ce monde-là. J'ai toujours aimé les cartes. Il y a une douzaine d'années, je m'étais mis un petit peu à Magic, et c'est aussi un domaine un peu particulier, en parallèle de Pokémon. Et pareil, ce qui m'avait donné envie de m'intéresser aux jeux Magic, c'était les illustrations à la base, même si après j'ai appris à y jouer, etc. J'ai toujours une petite collection, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas acquis, quoi. Voilà. Et les Cardass, j'en ai aussi. Je le savais pas jusqu'à il y a quelques temps, mais j'en ai aussi.
Comment ça, tu le savais pas ?
Je savais pas que ça s'appelait des Cardass, par exemple, tu vois.
C'est-à-dire ?
Moi, c'était des cartes que j'avais achetées quand j'étais petit chez la boulangère, tu vois, avec mes bonbons. J'achetais une carte par-ci, une carte par-là. Je pense qu'ils ils se vendaient même pas en paquet, tu vois, c'était vraiment à l'unité. Je les ai retrouvés pour la plupart durant le déménagement récent, dont certaines dans un état vraiment atroce. J'aurais dû en ramener, je regrette.
Notamment, tu me montreras une photo.
Ouais, j'ai ma toute première Cardass, qui est une Cardass. Enfin, je crois que c'est une Cardass.
Hein. Décris-la nous.
Alors en fait, c'est une carte déjà japonaise de Dragon Ball, période Boo.
Ouais.
Avec une bande de couleurs sur le côté, je sais pas
d'accord,
si ça va être une série particulière.
Donc ça c'est les Cardass.
Ouais voilà, donc c'est ça.
Quelle couleur la bande ?
Orange.
D'accord.
Ça correspond à quoi ?
Pas grand chose, parce qu'en fait dans une même série t'as des bandes de toutes les
d'accord,
couleurs.
C'est plus esthétique qu'autre chose.
Ouais, après on va dire que orange c'est plus un personnage gentil quoi.
D'accord, ok, je savais pas.
Et vois. Violet c'est plus les méchants et aussi vert, tu sais, vert sarcelle. Tu vois, vert turquoise un peu.
Ouais.
C'est les méchants, les Majin, etc.
C'est possible que j'en ai du coup.
Donc du coup, orange, vas-y.
Et donc, c'est la scène où Goten donne un coup de poing à...
Au petit gamin de...
Ouais, ils sont deux frères,
ouais,
avec une coupe mulet, etc.
Je vois exactement, c'est et voilà. La part 18, si je dis pas de bêtises.
Bah écoute, au pire, je t'enverrai
17,
la photo.
Non, je visualise.
Mais le truc, c'est parce qu'elle est particulière, c'est parce que... À l'époque, quand j'étais petit, je dessinais énormément. J'aurais voulu être dessinateur quand j'étais petit. Je dessine un petit peu, j'illustre un petit peu, mais c'est pas ce que.
Oui, voilà. t'as aussi ton compte d'illustrateur.
Non.
Je crois un truc comme ça.
Ouais, c'est des petits trucs que je fais par-ci par-là. Notamment dans mon travail.
T'as fait des trucs qui ont été diffusés et tout, quoi.
Ouais.
Et c'est pas mal.
J'ai réalisé quelques trucs, disons, mais. Et du coup, je dessinais énormément, c'est comme ça que j'ai appris à dessiner, hein, les personnages de Dragon Ball. Parfois, alors au début, je les décalquais, et puis après, je les dessinais.
Est-ce que tu les décalquais sur la fenêtre, comme moi, à l'époque ?
Non, j'avais du papier... papier transparent, quoi.
Papier
calque, voilà, c'est ça.
Parce que moi, ce que je faisais, c'est que du coup, je mettais l'image sur la fenêtre, je mettais mon papier dessus, du coup, tu voyais par transparence.
Sauf si tu décalques quelque chose d'assez épais, là,
oui,
c'est un peu compliqué. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que cette carte-là, j'ai voulu la reproduire, le dessin, donc je l'ai décalqué. Et maintenant, il y a une énorme trace de sur tous les contours, en fait.
Okay, oui.
Et j'aurais préféré la conserver impeccable, quoi, parce que c'était vraiment la toute première. Je me rappelle du jour où ma mère me l'a achetée.
En boulangerie.
Alors, celle-ci, c'était pas dans une boulangerie, c'était dans une sorte de supérette qui faisait charcuterie.
Qui vendait ça à l'unité ?
Et ben ouais.
C'était pas dans un distributeur ?
Non, moi j'ai jamais connu ce distributeur-là, et je pense qu'il devait y avoir genre sur le comptoir un truc avec parce qu'au début j'en avais qu'une seule en fait, donc c'était forcément, c'était forcément ça, vu que je connaissais pas les distributeurs. Et en plus je suis originaire d'un tout petit village, jamais de la vie il y aurait eu, enfin on était moins de 2000 habitants, jamais de la vie il y aurait eu ce genre de d'installation quoi. Il n'y a pas de boutique spécialisée, il n'y a rien du tout, voilà, il y avait juste ce truc là. Et je me vois encore regarder cette carte là trop content, avec écrit en japonais, etc. C'était fou, je devais avoir, je sais pas, peut-être 7 ans, quelque chose comme ça.
Celle-là, elle a dû sortir en 94, donc
je devais avoir 8 ans alors. Ok, bah voilà, c'est ça. Et après j'en ai quelques-unes, mais pas beaucoup. J'ai beaucoup de cartes aussi. Alors je pense que c'est des trucs qui sont sortis qu'en France, parce qu'il y a genre des cartes avec des images tirées directement de l'animé, tu vois, c'était pas des...
Avec un contour coloré.
Alors il y en a, je suis désolé, j'aurais dû noter, j'aurais dû les ramener, ça aurait été plus simple.
C'est mieux de faire jouer ta
mémoire. Mais en gros, il y a des cartes, j'en ai énormément de celles-ci. Elles ont un cadre bleu marine comme
ça. Ouais, ok, avec écrit Dragon Ball Z en dessous.
Ouais, il y a peut-être des étoiles en jaune, ouais, c'est ça.
Et le dos, il est bleu clair.
Et le dos, il y a une illustration d'un épisode avec un petit texte.
Ouais, mais ça, c'est la première série des cartes Panini.
C'est des Panini, d'accord, ok. Là, ça, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup. Je me rappelle aussi de cartes qui étaient des cartes à gratter.
Ah, ça aussi c'est Panini qui a sorti les fighting cards.
C'est ça, voilà, c'est ça.
Et hyper fragile celles-là parce qu'elles sont très fines et point carré.
D'accord. Celle-ci, je crois que je dois l'avoir complétée à plus de 90% parce que c'est.
Et t'avais l'album avec.
Une des rares collections pour lesquelles j'ai l'album effectivement, avec la carte. Je crois qu'ils appellent ça la ghost card, un truc comme ça. C'était une seule carte unique. Transparente. Okay, ouais. Mais ce qui est dommage, c'est que la scène, l'illustration est pas ouf.
Ouais.
Mais bon, c'était dingue de recevoir ça à l'époque, de la trouver quoi. C'est la seule vraie collection de cartes que j'ai fait dans ma vie.
Ouais.
Et en dehors de ça, ouais, il y en a plein d'autres, mais là, je les ai plus en tête.
Mais c'est
bon,
bien,
c'est essentiellement du Dragon Ball Z.
Ouais. Et puis, je crois que tu as une bande presto à Doraemon aussi.
Tout à fait, qui m'a été offert. Alors peut-être que tu as l'année
c'était la première fois qu'on s'est vu en 2016.
C'était la première fois, ouais. Ok, d'accord.
Je t'ai donné direct après ta Japan Expo qu'on s'est retrouvé au Café Lola.
Je la garde précieusement, elle est sur ma bibliothèque. Mais c'est ça en fait, c'est le truc, c'est que j'imagine que chez vous, il y a des pièces maîtresses, des cartes ultra rares, peut-être même très chères, ou vos premières cartes qui ont une valeur particulière. Et moi, c'est ça en fait, c'est. S'il y a une carte, c'est la façon dont je l'ai acquise, ma première carte Dragon Ball, cette carte de Raymond, ou des cartes là que Pokémon avec des illustrations que j'adore, soit je les expose, soit je vais les garder précieusement quoi.
Ouais, après chacun a sa façon de voir la collection, mais je pense que nous qui avons commencé ça quand on était enfant, c'est sûr que les premières qu'on a eues, elles ont plus de valeur, et puis valeur pour nous, tu vois.
Oui, bien sûr.
Et puis surtout en fait. Il y a une grosse différence entre les cartes de notre enfance et les cartes d'aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, une carte Pokémon, les cartes qui brillent pas, elles se revendent un centime, tu vois.
Bah, c'est sûr.
Alors que les cartes de notre époque, celles qui brillent pas, c'est pas des cartes à un centime. Et,
mais est-ce que les cartes Pokémon d'aujourd'hui qui valent 2 centimes, dans 20 ans, 30 ans,
je pense pas.
En même temps, il y a une telle production, je pense que c'est.
Ouais, je pense pas. Donc, du coup, t'as aussi ce truc où aujourd'hui, tu ouvres un booster Pokémon. Or, toi, du coup, tu t'intéresses à certains visuels, mais la plupart des gens, ils ouvrent un booster Pokémon.
Ils regardent la dernière carte, et c'est tout.
Non, et surtout, ils font par rapport. Genre, le booster m'a coûté 6 balles. Et du coup, je regarde combien d'argent j'ai perdu, tu vois. Oui. Et en fait, c'est
la collection, c'est plus de la,
c'est que,
la spéculation dans un sens.
Oui et non, parce que d'un côté, en même temps, t'as pas envie de. Même si t'es pas dans le spéculateur, t'as quand même pas envie de perdre de l'argent, tu vois. C'est-à-dire que tu
oui,
te dis.
Oui, non, mais c'est sûr.
En fait, c'est devenu plus un jeu d'argent aujourd'hui.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'en gros, soit t'as le jackpot, soit t'as pas le jackpot. Mmh. Et en fait, imagine tout le booster et t'as que 10 cartes à 1 centime. Mais tu te dis, en fait, j'aurais dû les acheter à l'unité, elles m'auraient coûté 10 centimes au multiball, tu vois. En fait, c'est ça le truc.
C'est vrai que c'est un conseil, moi, pour les cartes Pokémon que j'ai entendu récemment, c'est que. On dit, si vous cherchez des cartes, n'essayez pas d'acheter des boosters, voilà, c'est ça, prenez l'unité.
Ouais.
Ou échanger aussi, ça peut se faire, hein, pourquoi pas. Hein,
ouais.
Mais est-ce que tu as une idée approximative du nombre de cartes que tu as chez toi?
Absolument pas, surtout
que. Je pense que c'est impossible à quantifier, ça.
Non, surtout que. Surtout que là, ces dernières années, je suis à fond dans les cartes de foot. Et en fait, comme c'est. En fait, en ce moment, depuis 2-3 ans, je suis à fond dans les cartes de foot japonaises non officielles qui sont sorties entre fin 92 et 1994.
Je vois, ouais.
Voilà, c'est très, très précis. Et en fait, le truc, c'est que comme les cartes sont hyper rares, mais en même temps, elles valent pas cher parce que je suis le seul intéressé. Donc en fait, dès que j'en vois, même si je les ai déjà, en fait, c'est tellement pas facile d'en trouver que même si je les ai déjà, je les prends, tu vois.
Je comprends.
Et en fait, donc du coup, je fais la collection en plusieurs exemplaires.
Ouais, ouais.
Donc ce qui fait que, en fait, même quantifier ça, comment est-ce que je les quantifierais? Est-ce que je compte genre chaque type de carte, je la compte une seule fois ou je la compte par nombre d'exemplaires? Ouais. Tu vois, c'est
il faudrait plus compter, j'allais dire, au mètre cube qu'à la carte.
Au nombre de classeurs, je sais pas. Mais bon, non, mais c'est clair, quoi. Et du coup, juste pour revenir donc, sur Doraemon, dis-toi, donc ma copine est prof des écoles et en fait, elle cherche à mettre des mangas dans sa classe.
D'accord.
Parce que les élèves lui demandent, etc. Sauf qu'en fait, elle peut pas mettre n'importe quoi. C'est-à-dire que s'il y a un manga où il y a un peu de violence ou des trucs comme ça, bon, les gamins, s'ils lisent ça chez eux, il n'y a pas de souci. Mais sauf que il y a des trucs que les gamins peuvent lire, mais qui doivent pas se retrouver à l'école, tu vois.
C'est sûr.
Et donc du coup, moi je lui ai dit, tiens, pourquoi pas Doraemon. Elle a cherché sur Google et il disait aussi Doraemon. Et en fait, elle a commencé à lire le premier tome. Et elle me dit, mais en fait non, je peux pas mettre ça, parce qu'en fait, genre, t'as, dès le début, t'as des trucs de, un peu de harcèlement, ou genre t'as des élèves où tout le monde se fout de sa gueule pour un truc.
Ouais, c'est sûr.
Du coup, je savais pas trop quoi lui proposer, parce que j'avais proposé Doraemon, là j'avais commencé à lire Chibi Maruko-chan, je sais pas si tu l'as lu.
Je vois.
Qui est vachement sympa, je pense que ça peut passer.
J'ai pas lu, mais je. Bon, c'est intéressant, mais je m'étais acheté la version japonaise il y a, je pense, 15 ans à l'époque. Je l'avais trouvé, je l'avais pris juste pour l'illustration, tu vois. Encore une fois, il y a un truc qui m'a attiré. Mais...
Donc, ça pouvait passer, mais j'avais proposé d'autres choses. Mais bon, tu sais, le truc, c'est qu'à chaque fois que tu poses la question, genre tout le monde répond Chi, une vie de chat. Mais bon, c'est un peu chiant, quoi. Les gamins, ils ont pas 5 ans non plus, ils ont 10 ans.
C'est sûr.
Alors voilà, donc du coup, nous à l'époque, on lisait Dragon Ball, mais sauf que Dragon Ball, un prof ne veut pas le laisser à dispo.
C'est sûr.
Même si les élèves, ils font ce qu'ils veulent chez eux, tu vois.
Oui, et puis s'ils ont déjà les Dragon Ball chez eux, il y a plus d'intérêt. C'est pas ça qui va plus les intéresser à la lecture, par exemple. Mais le truc difficile aussi, c'est que les enfants au Japon, en fait, ils lisent pas du tout la même chose. C'est une culture complètement à part. D'ailleurs, dans certains podcasts où il y a des éditeurs qui sont invités, ils en parlent, ils disent que l'humour va être complètement différent, ça va être très pipi, caca, etc. En plus, tu vois, Doraemon, je pense que ça doit dater des années 80, si c'est pas 70.
Ouais, 70, je pense.
Ouais, donc tu vois, les mœurs ont évolué. C'est particulier, même si je pense que ça va être. J'ai lu que les premiers volumes, mais je pense que ça va quand même être sympa à lire. Mais ouais, disons que c'est comme nous, en bibliothèque, qu'est-ce qu'on propose aux enfants, comment on le classifie, etc. C'est la même, plus ou moins la même problématique. Ils peuvent lire ce qu'ils veulent chez eux, ou alors même leur mettre à disposition, encore que nous, on n'a pas le même travail que nos enseignants. C'est-à-dire qu'on les incite pas à lire une série en particulier.
Après, ils choisissent.
On leur met à disposition, voilà, c'est ça. Ouais. Mais voilà. Ouais.
Et du coup, j'avais dit, ce serait cool, Détective Conan, mais bon, dès les premiers tomes, c'est très violent. Donc,
Mais j'étais surpris parce que. Donc j'ai.
Ça fait plaisir,
parce que j'ai le numéro 2 là dans mon sac, je l'ai ramené. J'ai recommencé la lecture parce que quand on s'était vu justement il y a quelques années, on était passés ensemble dans le magasin, j'avais acheté les premiers volumes, il y a une offre spéciale.
C'était en 2020, juste avant le confinement.
Ah oui.
On avait réservé pour un brunch.
Chez Cloud Cakes,
Soya Cantine Bio. On avait fait le brunch qui est hyper cher, à 40 balles. C'est le buffet à volonté. Et en fait, il y avait Malik qui devait venir, mais en fait, il était malade.
Il n'est
pas venu. Et je me rappelle, ensuite, on avait marché jusqu'au hall et t'avais effectivement profité de l'offre des premiers tomes de Détective Conan à 3 balles.
C'est ça. Ouais. Et par la suite, j'en ai acquis en occasion quand j'en trouvais, ou même dans le fond, ce qu'on appelle le pilon à la médiathèque. Ouais. C'est-à-dire, c'est tous les mangas qui sont destinés à être détruits pour une raison ou pour une autre. Ouais. Et c'est vrai que Détective Conan, c'est très très lu. Et donc, j'ai recommencé ma lecture il y a 2-3 jours. Ouais. Et j'étais surpris de. C'est sombre en fait, c'est très sombre dès le début.
Ouf en fait. Et là, du coup, tu m'avais montré la photo de l'enquête avec Yoko Okino, tu l'as fini ou pas?
Oui, je l'ai fini.
Et donc, du coup, le truc, tu vois, en fait, comment le dénouement, comment le mec il est mort.
Et c'est vrai. C'est vrai. Alors,
c'est très astucieux, mais.
Ouais. Non, mais je connaissais en plus, je savais la fin de l'affaire parce que je lis beaucoup de choses et je me rappelle jamais des histoires, mais là, celle-ci, je connaissais déjà une énigme qui commence un petit peu comme ça. Et je me suis dit, ah, est-ce que c'est pas ça? Je vais pas spoiler, mais je m'attendais à la fin.
Ouais.
Mais ça me fait plaisir que ce soit en fait plus sombre que ce que je croyais, parce que du coup, c'est vraiment le type de lecture que je cherche, que je cherche en ce moment, quoi, enquête un peu sombre.
Et en fait, pour l'anecdote, donc il y a l'adaptation animée qui a commencé 2 ans après, donc le manga date de 94 et la série animée date de 96. Et en fait, la série animée, elle est destinée à un public plus jeune que le manga. Donc ils ont, en fait, c'est assez bizarre parce que les premiers épisodes ne correspondent pas aux premières enquêtes. Alors j'ai jamais vérifié si en fait toutes les premières enquêtes sont vraiment toutes en épisodes.
Ouais.
Bon, à partir d'un moment quand la série a rattrapé le manga, ils étaient obligés de faire de suivre tous les épisodes qui sortaient. Mais en fait, le truc, c'est que comme c'est pour des publics plus jeunes que le manga, en fait, ils ont modifié certaines enquêtes pour impliquer les Detective Boys, qui ne sont pas tous dans les enquêtes dans le manga. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Detective Conan, les Detective Boys, en fait, c'est le groupe de copains de Conan de l'école primaire. Et en fait, tu as des enquêtes où, normalement, dans le manga, c'est juste Conan et Kogoro et Ran qui vont enquêter. Et du coup, dans le manga, dans la série animée, ils ont mis les gamins en plus, histoire de que ça plaise plus aux enfants, qu'ils s'identifient plus, etc. Bon.
Du coup, ça doit être la douche froide pour les gamins qui ont découvert l'animé, qui commencent à lire. Et t'as, par exemple, je sais, dans le volume 1, t'as une enquête, c'est un mec qui se fait décapiter, clairement, quoi. Il se fait trancher la tête sur un roller coaster.
C'est le premier chapitre.
Quand même, moi je m'attendais pas à ça.
C'est le premier chapitre.
Bah ouais.
Non, le
je sais pas si la série animée est aussi explicite, si elle montre ce genre de choses. Mais...
Je pense que sur ça, elle est un peu moins explicite, mais après, je pense que ça c'est. Parce qu'en fait, comme le public initial, la série animée, il a aussi grandi.
Ouais,
donc
ouais,
après, ils peuvent plus se permettre, tu vois. Mais oui, cette fameuse dernière enquête de Shinichi.
C'est ça.
Mais je crois que du coup la rencontre avec les hommes en noir, c'est derrière une palissade, etc. Elle est un peu plus douce dans le début de la série animée. Même si après on la revoit plusieurs fois, genre dans certains films. Genre même je me demande si dans l'intro de tous les films Détective Conan, ils montent pas ça, et donc du coup là ils remontent le vrai truc. Mais je crois qu'au début.
En tout cas, je trouve que c'est une série vachement bien. Je sais pas si parce que tu me disais que. Qu'on peut se lasser au bout d'un moment, parce qu'il y a quand même, je sais pas, il doit y avoir 110, 120
Là, il y a le 100, 105 ou 106 qui sort en septembre.
Okay. Donc c'est un peu ralenti.
Un truc comme ça, mais en fait, le problème que je te disais l'autre jour, c'est qu'en fait, petit à petit, en fait, comme le manga devient de plus en plus poussé, les enquêtes de plus en plus complexes, etc. Alors, en fait.
Ça ne va pas être évident quand même de renouveler la chose, je trouve.
Bah, et surtout, en fait, comme c'est plus complexe. Bah en fait, Gosho Aoyama, il a besoin de caser plus de trucs dans les cases et il a besoin de faire plus d'explications. Et donc en fait, on a la taille du texte qui est réduite pour pouvoir mettre plus de choses dans les bulles.
Ouais.
Et donc du coup, et parfois même dans les cases, t'as beaucoup plus de trucs, donc t'as moins de zoom, c'est moins zoomé.
Ouais.
Et donc c'est un peu compliqué. Et donc du coup, tu mets plus de temps à lire une page qu'avant.
Okay.
Donc c'est pour ça que parfois j'ai du mal à rester sur ma dynamique de lecture, mais bon, j'ai toujours le dernier à finir que j'ai entamé, quoi. Mais bon, c'est vachement cool. Et puis, est-ce que t'as déjà regardé les films ou jamais?
Non, j'en ai vu aucun.
Les films, ils sont vachement cool. T'en as qui. Moi, j'ai beaucoup d'affection, surtout pour les 5 premiers, parce qu'en fait, c'est ceux qui étaient sortis en DVD à l'époque, à la fin des années 2000, genre en 2007-2008, chez Kazé. Et en fait, le premier qui n'est pas sorti en France, c'est le numéro 6. Parce qu'à partir de 2019, je crois, en fait, t'as. Le fameux éditeur manga Black Box qui était sorti en Blu-ray. Au début, il devait faire en fait un coffret avec tous les films.
Ouais.
Puis en fait, je sais pas, ils sont dégonflés, donc du coup, ils ont sorti un Blu-ray par film. Et en fait, le film numéro 6, il est hyper culte. Parce qu'en fait, t'as Conan et ses copains qui arrivent à l'époque de Sherlock Holmes et de Jack l'Éventreur.
Je crois que j'ai vu les images de.
Et donc, du coup, celui-là, les gens l'aiment beaucoup, même si moi, c'est pas forcément mon préféré.
Moi,
mon préféré, bon, j'adore les premiers, ils sont vachement cool. Je suis hyper fan de la musique d'ending du deuxième film par Zard. Tu connais Zard? Le groupe de J-pop des années 90. Qui a fait le ending de Dragon Ball GT, Don't You See?
Ah, ok, je vois.
Et avec du coup la chanteuse qui est morte quelques années après, donc du coup le groupe est devenu encore plus culte. Voilà, et puis sinon t'as un que j'aime beaucoup aussi qui se passe à Kyoto. qui s'appelle je sais plus quoi dans l'ancienne capitale, je sais plus quoi, qui est vachement cool quoi. Ouais, bah trop cool si tu lis ça, ça, ouais, me, fait, ouais. Ça me fait plaisir.
C'est cool. Pour moi, Détective Conan, c'est égal Juju. Je pensais immédiatement à toi dès que je...
Et c'est quasi le seul manga que j'ai vu aujourd'hui.
Ouais, bah pareil. Donc, enfin, je veux dire, c'est, avec le temps, je lis beaucoup moins de séries différentes. Là, aujourd'hui, je sais pas, le marché actuel en France, en tout cas, ça me ressemble plus des masses. J'ai lu quelques... peut-être deux ou trois séries et je me réunis en fait des vieux trucs mais ouais voilà et puis je voulais dire un truc tout à l'heure et je l'ai oublié, ça m'a fait penser à un truc mais non, c'est pas grave, mais en tout cas voilà Détective Conan c'est vraiment trop bien, en plus je trouve que c'est une très bonne lecture d'été parce que par définition en été t'aimes bien lire des trucs courts, etc. Et puis là, tu te lis une enquête ou un chapitre. Et l'ambiance est vraiment trop, trop cool. Le mystère, l'enquête. Moi, j'adore tout ce qui est enquête, même en jeu de plateau. C'est un genre qui me plaît énormément. Et il y a cette petite vibe aussi, parce que j'ai pas mal joué aussi au jeu de Professeur Layton.
Oui, bien sûr.
À mon avis, n'existerait peut-être pas. Enfin, il ressemble à pas à ça si Detective Conan n'existait pas. Ouais. Mais j'adore aussi l'ambiance, les musiques sont cool aussi. Même si il y a une grande enquête, ça va plus être des casse-têtes après durant l'aventure. Mais est-ce qu'il y a eu des jeux vidéo avec Detective Conan
Bah en fait, moi j'en ai, il y en a plusieurs. Moi j'en ai un sur Wii.
Ah ouais.
Et j'avais tenté d'y jouer. Ah ouais. Je l'avais ramené une fois où j'étais allé chez mon copain Jean-Phi et on avait tenté d'y jouer. Mais en fait, on n'a pas réussi à y jouer, donc je pense que, tu sais, parce que en fait, c'est le genre de jeu où tu commences, t'es dans une salle, et tu sais pas où aller, donc faut aller tout fouiller.
C'est un peu un point and click ou un truc comme ça?
Bah, c'était sur Wii, donc tu peux pas cliquer, tu vois, mais. Et bon, dès le début, on était perdus, donc en fait, on n'a pas.
Mais il était en japonais, peut-être, c'est peut-être pour ça.
Non, il était français, Il était en français, okay, et okay. J'ai pas. J'ai un jeu Game Boy aussi, mais japonais, donc j'ai jamais joué.
D'accord.
Mais ouais, il y a quelques jeux, après, je sais pas trop ce que ça vaut, quoi, mais.
Après, disons qu'il n'y en a aucun qui est connu
oui, voilà.
Plus que ça.
Ouais, voilà. Ouais, et puis. Ouais, tiens, du coup, on parlait de lecture d'été.
Oui.
Moi, ça fait 2 ans que chaque été, en fait, ma lecture d'été, c'est du Edogawa Lampo.
Ok, cool, j'adore.
Ouais, et je trouve. Enfin, voilà, je trouve que ça va vraiment avec l'ambiance, etc. Et là, je crois que du coup, cet été, je vais m'attaquer à un très gros volume de lui qui s'appelle Vampire, je crois. Qui est une enquête de Kogoro Akechi.
D'accord, bien sûr,
je connais. Et du coup, d'habitude, soit c'est des petits romans que je lis, soit c'est des nouvelles, et là, du coup, ce sera un gros, donc on va voir ce que ça donne.
Ouais, il y a quelques recueils de nouvelles, effectivement, qui sont sortis en français, dont certains très cool. Ouais. Il y en a un dont j'avais parlé dans un autre podcast, d'ailleurs.
Vas-y, c'est quoi?
La Chambre Rouge. En fait, dans La Chambre Rouge, je crois qu'il y a 4 nouvelles ou un truc comme ça.
Ouais.
Et il y a une des nouvelles qui s'appelle La Chaise Humaine, dont le titre, je sais pas pourquoi, mais ça évoque directement des choses. Enfin, ça
fait
un travail d'imaginaire.
Je t'avais pas montré le film Tokyo Gore Police. Ça te dit quelque chose
ou pas?
Ça
me dit un truc,
et dedans, t'as une chaise humaine. Tu te souviens pas?
Je me rappelle pas, mais moi, ça me fait penser à. C'est horrible, je sais pas si ça va parler à grand monde, mais peut-être que si. Ça me fait penser à Pigalle, il y avait un sex shop à une époque, je sais pas s'il existe toujours. Dans la vitrine, il y avait une chaise avec des langues sur une roue qui tournait.
Ah, oh, sympa.
À chaque fois, ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Petite parenthèse. Et La Chaise Humaine, donc c'est ma nouvelle préférée de lui, parce que c'est une nouvelle à twist, et vraiment, c'est très court. Et en gros, je fais le pitch vite fait, même si je sais pas si c'est intéressant. Mais en gros, c'est une dame qui commande une chaise très ouvragée chez un artisan. Elle est aisée, et puis un jour, elle reçoit la commande accompagnée d'une lettre. Et dans la lettre, en vrai, c'est difficile de dire quelque chose, mais en gros, quasiment toute l'histoire, ça va être l'artisan qui va s'adresser à elle. Et voilà, il y a un très gros twist à un moment donné, et juste après il est suivi par un autre twist, et je trouve que ça marche trop trop bien. Vraiment, je trouve que ça fait partie. Je crois pas avoir lu de nouvelles de lui qui ont trop vieilli, je trouve. Donc s'il y a des gens qui aiment la lecture, qui nous écoutent, je leur conseillerais d'essayer Edogawa Rampo avec un des recueils de nouvelles pour voir si ça vous plaît. Et ouais, je pense que si vous aimez ce genre d'ambiance, d'ailleurs. C'est un auteur qui a beaucoup influencé certains styles de manga. S'il y a des gens qui connaissent un peu Junji Ito, qui connaissent Sui Hiro Maruo, qui a fait ce qu'on appelle le Eroguro, c'est un peu de l'horreur, parfois un peu d'érotisme, des choses comme ça, mais c'est très, très sympa comme ambiance, on va dire, si on aime ce genre de lecture. Voilà.
Et en novembre dernier, j'avais acheté un manga qui s'appelle Rampo Noir, je crois, ou Rampo, je sais plus quoi.
Oui,
je me demande si c'est pas un Shintaro Kago.
C'est possible. C'est effectivement.
Et en fait, dedans, c'est un personnage qui recherche son frère ou sa sœur, et en fait, qui traverse plein d'univers de romans et de nouvelles de Rampo.
D'accord.
Et à un moment, bah, du coup, on a la chaise humaine, où on voit visuellement le manga avec la chaise humaine.
D'accord, ok.
Voilà. Donc, je pense que ça peut te plaire. Alors, je suis pas sûr de l'avoir fini, mais. C'est que tu. Rampo, tu l'as trouvé, c'est Rampo.
Je l'ai pas trouvé, non, j'ai pas trouvé.
C'est. Ouais, je sais plus, c'est. Cherche Shintaro Kago, mais je sais pas si c'est lui, mais. Et Rampo. Shintaro Kago, Rampo. Et
Rampo Noir, mais je.
Bah, c'est ça, c'est pas ça.
C'est un film, en fait.
Ah merde.
J'ai trouvé qu'un film.
Non, c'est un film, ça aussi. Ouais, non, c'est Rampo, je sais plus, mais bon, c'est. C'est. Voilà, on le trouvera facilement. Voilà, et bah du coup, juste pour finir, parce que ça fait déjà 36 minutes.
Ouais.
Bah tiens, est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi t'es venu sur Paris? Parce que ouais, c'est un truc okay. Un peu otaku, donc.
Alors, ouais, c'est très, très, très précis. En gros, depuis début des années 2000, j'ai découvert les mangas et tout ça, et le Japon et tout. Et en même temps, j'ai découvert la culture japonaise via sa musique. Et notamment le Visual Kei, qui est un style de rock, un peu, on va dire, glam rock, voilà. Des costumes, voilà, c'est très, très visuel, justement. Et là, en ce moment, juste à côté de Japan Expo, il y a un festival qui aura lieu aujourd'hui et demain. Deux groupes de Visual Kei, avec des groupes très connus, genre Versailles, Umuk, ou Despair's Ray aussi, qui sont des groupes qui sont venus à l'époque, milieu des années 2010, même encore peut-être récemment. Donc c'est des grands noms du genre, et c'est pour ça que j'ai ma compagne qui m'a offert pour mon anniversaire un billet pour assister à ce festival, pour revoir des groupes que je n'ai pas vu depuis très longtemps, quoi. Et voilà, je pensais faire un petit tour à Japan Expo, mais je
pensais être compliqué.
Pense pas, ouais, même si c'est juste à côté, mais je crois que les billets d'entrée en plus sont assez élevés, donc j'ai pas trop regardé, mais...
C'est pour souffrir la chaleur et être entassé.
C'est ça.
Et voir que des stands de gosses chinois.
Bah c'est ça, ouais.
Voilà. Trop cool, je pense qu'on va arrêter là. Merci Max.
Merci pour l'invitation.
Voilà, et tu pourras enfin entendre ta voix dans le Carnet Social
Cast. Tout à fait, parce que c'est vrai que tu as déjà parlé de moi une ou deux fois dans des épisodes.
Ah, okay.
Et tu as fait allusion à moi, je sais plus si tu m'as nommé, mais ça me fait plaisir, même si j'aimerais bien revenir éventuellement pour jouer un petit peu le rôle de l'ingénu qui pose les questions de base sur les Cardass. En tout cas, merci, c'était très agréable.
Trop cool, salut tout le monde.
Bye.
Tout, c'est le tout nouveau podcast sur les Cardass. C'est le tout nouveau podcast sur les Cardass.